Lucas.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, rédacteur en chef du magazine Historia, auteur de livres consacrés à la préhistoire, deux livres, et vous co-signez le scénario d'un documentaire, Lady Sapiens, doc scientifique consacré à la véritable place de la femme au Paléolithique. Ça va passer ce soir sur France 5 à 21h. Documentaire réalisé par Thomas Sirotto, que je salue, bonjour.
Bonjour Philippe.
Thomas Sirotto, vous êtes auteur, réalisateur. Vous aviez notamment réalisé Qui a tué Néandertal, co-écrit justement avec Éric Pincas et Jacques Malaterre, qui sont également auteurs de ce doc. Il y a aussi un projet transmédia et un livre dont on va parler. Lady Sapiens, ça part d'une intuition qui est devenue une thèse. Au milieu du 19e siècle, les premiers préhistoriens ont sous-estimé le rôle des femmes en interprétant leurs découvertes avec les a priori de l'époque. En gros, ils ont plaqué sur Cro-Magnon leur vision de la société.
Oui, alors faut pas juger les préhistoriens du 19e parce que forcément ils ont leur propre regard, les mentalités du temps. À l'époque, la femme, c'est la mère au foyer, c'est la mère nourricière. Et du coup, parmi les préhistoriens, ce sont essentiellement des hommes. Il y a aussi beaucoup d'hommes d'église parmi ces préhistoriens, donc la femme pécheresse aussi, si bien qu'on va accorder à la femme une place extrêmement mineure et faire de l'homme chasseur, eh bien, l'emblème de la préhistoire et surtout l'acteur principal de ces temps anciens.
Évidemment, l'image d'Épinal, c'est le type qui garde l'entrée de sa grotte avec un gourdin et qui tire sa femme par les cheveux pour la ramener à la cuisine, en gros, à peu de choses près. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la conclusion. On va écouter, c'est la voix off de ce documentaire, Rachida Brakni, mais c'est votre texte, évidemment.
Lady Sapiens apparaît enfin en pleine lumière. On la croyait faible et sans défense. On la découvre chasseresse, combative et puissante. On la pensait bestiale et primaire. La science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs et prenait soin de son corps et de son apparence. On l'imaginait soumise. Elle était respectée, honorée, vénérée.
Alors le documentaire est construit à la manière d'une enquête policière. Il y a des indices, il y a des pistes, il y a des hypothèses, il y a des réponses. C'est comme ça que vous avez travaillé.
Exactement, oui. On a suivi le fil rouge narratif d'une jeune femme de la préhistoire, de son adolescence jusqu'à sa mort. Et au cours de sa vie, elle va évidemment rencontrer à chaque fois un homme, faire un enfant, etc., etc. Et c'est ça qui a guidé évidemment notre histoire. Évidemment, la difficulté, c'était à chaque fois de trouver un indice scientifique pour répondre à toutes ces différentes situations.
C'est justement ça qui est absolument passionnant, c'est qu'on découvre par exemple que ce qu'on croyait comme activité considérée comme masculine, la chasse ou la taille de pierre, en fait, ces activités qu'occupaient le devant de la scène, c'est parce que c'était celles qui laissaient le plus de traces archéologiques. Et vous-même, vous avez retrouvé des traces très, très, très ténues. On va les détailler ensuite, mais dès le début du film, il y a quelque chose qui m'a frappé. On écoute.
Arrivées en Europe il y a 45 000 ans, ces femmes ont laissé sur leur lieu de vie des indices de leur passage. Ces vestiges mobilisent aujourd'hui une nouvelle génération d'archéologues, désormais composée de femmes et d'hommes.
Alors le film a été écrit par vous, réalisé par vous, Thomas Sirotto, Éric Pincas et Jacques Malaterre, je l'ai dit, trois hommes. Où sont les femmes ?
Il y a des femmes dans l'équipe.
On est très entouré de femmes.
Non, mais
très
comment se fait-il qu'il n'y ait pas une femme qui réalise le documentaire qui réhabilite la place de la femme ?
Elles le produisent, figurez-vous.
Ouais,
c'est elles qui sont à la manette derrière nous.
Oui, elles donc, le produisent. Et puis surtout, on est parti d'une synthèse scientifique de notre conseillère scientifique.
Aussi,
qui a
Sophie de Beaune.
Confirme, voilà. Sophie de Beaune.
Donc ouais. Valérie Montmartrin et Sophie Parot sont nos deux productrices. Et on a respecté, je ne sais pas si vous avez compté, mais la parité totalement sur le film. On est à égalité entre les scientifiques hommes et les scientifiques femmes.
Je l'ai vu. Alors j'ai fait une découverte grâce à votre film. On va rentrer dans le cœur du sujet. Les hommes qui sont arrivés en Europe, parce que le berceau, c'est évidemment l'Afrique, et qui, les hommes et les femmes qui sont arrivés en Europe il y a 45 000 ans étaient noirs, on s'en doutait, mais ils avaient les yeux bleus. On le sait, vous verrez dans le film comment on le sait, mais pour quelle raison avaient-ils les yeux bleus ? Qui veut répondre ?
Bah, c'est vraiment une question, c'est la génétique aujourd'hui qui nous raconte cela, parce que la paléogénétique aujourd'hui permet effectivement de brosser un portrait robot extrêmement précis, ouais, de la femme de la préhistoire et des hommes de la préhistoire. Et effectivement, il y a 40 000 ans, ils avaient la peau noire et les yeux bleus, jusqu'à très tardivement, jusqu'à moins 5 000 ans. Et les yeux bleus, bah, c'est un gène, le gène HERC2.
Oui, mais servait à quoi ?
En fait, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il y avait la sélection sexuelle.
C'est la culture, c'est la culture des hommes et des femmes de cette époque-là qui préféraient s'accompagner ou s'accoupler avec des gens qui avaient les yeux clairs. Ils avaient des goûts particulier.
C'est une question d'attirance sexuelle.
Et, voilà, en, fait. Et en revanche, là, s'explique plus scientifique. Bon, non, quoique le cas, c'est plus scientifique, mais c'est très récent, l'arrivée de la couleur blanche de la peau, ça a seulement 6000 ans, et cela coïncide, ça aussi je l'ai appris grâce à vous, avec l'invention de l'agriculture. Quel est le rapport?
Oui, parce qu'en fait, au paléolithique supérieur, eh bien, le régime alimentaire est très chargé en graisse animale, en moelle osseuse, etc. Et du coup, il y a pas mal de vitamine D que le corps synthétise naturellement. Et puis, lorsqu'on va commencer à vivre sous des latitudes plus avec un taux d'ensoleillement moins prégnant, et qu'on devient agriculteur éleveur au néolithique vers moins 10 000 ans, eh bien le régime alimentaire change lui aussi. On mange plus de céréales et une alimentation plus chargée en céréales est plus pauvre en vitamine D. Et le corps va avoir cette réponse physiologique naturelle et va engager la dépigmentation de la peau pour mieux synthétiser la vitamine D.
Alors, dans l'image d'Épinal des populations préhistoriques, l'homme chasse, la femme reste à s'occuper des enfants, ou alors s'éloigne pas trop de la caverne ou de la hutte pour s'occuper de la cueillette, et ce n'est pas aussi caricatural que ça. Il y a les femmes qui chassent.
Ah ben oui, c'est ça qu'on a découvert aussi justement, mais elles chassent, elles vont donc, elles participent très activement à la cueillette qui représente 70% donc des ressources alimentaires fournies tous les jours donc pour manger. Donc c'est beaucoup plus important que la chasse en fait. La chasse, c'est évidemment, ça fournit les peaux, ça fournit une matière première pour faire des outils, mais c'est pas si important que ça en fait dans le quotidien alimentaire de ces gens. Et puis elles font de l'artisanat. Elles font aussi de l'art.
Alors ce qui est absolument passionnant dans ce documentaire, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas manichéen, c'est pas ce qu'on vous a raconté, c'était des bêtises, c'est que vous relativisez, c'est mesuré, on sait que c'était quand même les hommes qui chassaient le gros gibier. Comment vous le savez? Grâce à une blessure. Vous êtes allé voir une lanceuse de javelot, racontez ce qu'elle vous explique.
Ah oui, bah alors ça c'est donc Yona Egui qui est championne de France Espoir, hein, qui prépare d'ailleurs les JO pour 2024. Eh bien, elle raconte qu'à force de lancer le javelot, elle se fait des tendinites au bras. Et ces tendinites au bras, en fait, un chercheur qui s'appelle Sébastien Villotte les a retrouvées sur des ossements uniquement masculin du paléolithique supérieur, c'est-à-dire de la période qu'on étudie, nous, dans le documentaire, qui va de moins 40 000 ans jusqu'à moins 10 000 ans. Et alors, dans un premier temps, on se dit, bah zut alors, les femmes, elles chassent pas? Eh bien, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on va, justement, sur le site de Pincevent, eh bien, on se rend compte que les femmes participent, parce que la chasse, c'est pas uniquement de lancer le javelot, c'est aussi, eh bien, aller sur le terrain, là où on va chasser, organiser la logistique, et puis,
les
une
battues.
Fois qu'on a chassé, il faut faire les... Enfin, d'abord, avant, vous avez raison, on fait les battues, après, il faut ramener l'animal, il faut le découper, le dépecer, parce que quand on chasse, comme à Pincevent, 76 rennes, ça représente 3 tonnes de viande, c'est colossal, on va pas manger en 3 semaines 3 tonnes de viande, donc il faut la sécher. C'est de la viande pour l'hiver, donc il faut s'en occuper. Et les femmes, elles sont extrêmement présentes dans toutes ces activités.
Et la chasse, c'est pas que le gros gibier, c'est aussi le petit gibier. Et là, les femmes sont souvent dédiées à la chasse au petit gibier.
Oui, d'où l'expression « lever un lièvre ». Blague à part, mais elles chassent les lièvres, ça m'a frappé. Et vous avez quand même retrouvé un cas d'une tribu dans les Andes, en Amérique du Sud, où les femmes chassaient, c'était il y a 9000 ans. Et pour citer Sophie Archambault de Beaune, qui a un peu présidé à l'écriture de ce projet, elle écrit que la vision traditionnelle d'une femme écrasée sous le joug masculin est tout aussi excessive que celle d'une femme chasseresse égale de l'homme. Un partout, balle au centre. On n'a pas encore parlé de la manière dont on faisait les enfants. On n'a pas encore parlé de sexualité. On n'a pas encore parlé de naissance. Et dans la deuxième partie de Culture Média, Éric Pincas et Thomas Sirotto, on parle de ce documentaire Lady Sapiens, ce soir à 21h sur France 5 et dans quelques instants sur Europe 1. Éric Pincas, auteur, Thomas Sirotto, réalisateur de ce Lady Sapiens, documentaire scientifique, historique et même préhistorique. C'est ce soir à 21h sur France 5 et ça raconte la place véritable de la femme dans la préhistoire au-delà des clichés du 19e siècle. Autre idée battue en brèche dans votre documentaire, les femmes de la préhistoire n'avaient pas un enfant tous les 9 mois, voire tous les ans, et ensuite mourir à la trentaine. Et on sait cela de manière scientifique, grâce à une nouvelle technique, grâce aux dents. Expliquer Thomas Sirotto.
C'est un chercheur qui donc travaille à l'ENS Lyon, qui travaille sur les dents, parce qu'à l'intérieur des dents, on a la capacité de savoir à quel moment l'enfant est passé d'une nourriture uniquement
lait maternel
à une nourriture bien variée, etc. Parce que ça laisse des traces dans la croissance de la dent. Et donc, on détermine à ce moment, donc c'est 2, 3 ans, 4 ans, grâce à un appareil extrêmement extrêmement sophistiqué, d'un accélérateur de particules qui est capable de trier tout un tas de molécules. Donc ça, c'est assez fantastique. Et puis, grâce à ça, on est capable de se dire même combien d'enfants elle peut avoir, du coup.
Et oui,
puisque pendant que la femme allait, elle n'est pas fertile. Et donc, on sait, si par exemple l'allaitement dure 3 ans, eh bien, que pendant ces 3 années, elle ne peut pas avoir d'autres enfants. Et donc, en sachant sa durée de vie, eh bien, on peut calculer comme ça le nombre d'enfants qu'elle peut avoir au cours de sa vie.
Et le résultat, c'est que par exemple, les Homo erectus qui vivaient il y a 1,5 million d'années, les petits-enfants étaient allaités jusqu'à l'âge de 4 ans, et donc une femme en âge de progrès de 15 à 35 ans, ça signifiait qu'elle avait 4 enfants maximum, allez 5, mais pas davantage. Et les résultats ne sont pas encore connus, dites-vous, pour Homo sapiens. Alors, comment les femmes accouchaient-elles à la préhistoire ? Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait se poser cette question, mais on a la réponse, c'est la paléoanthropologue Julie Bouaillet qui répond.
Récemment, les études sur la musculature des femmes préhistoriques démontrent qu'elles étaient, et elles étaient faites comme des athlètes de haut niveau actuel. On peut penser qu'elles arrivaient à l'accouchement dans des conditions tout à fait optimales pour que l'accouchement se passe bien.
Car l'accouchement demande une forte mobilisation physique du corps de la femme.
Les femmes préhistoriques, elles devaient accoucher dans beaucoup de positions différentes, mais certainement pas allongées sur le dos. Les positions verticales sont avantageuses quand on accouche. On a une meilleure ventilation pulmonaire. On a moins de douleurs. On profite de la gravité. Il n'y a pas d'incapacité anatomique chez Homo sapiens pour accoucher.
On apprend également que les femmes préhistoriques n'accouchaient pas sur le dos, mais pour quelle raison ?
Alors ça, c'est les études ethnographiques hein, aussi qui nous renseignent. Les ethnologues qui ont vécu au milieu des peuples de chasseurs-cueilleurs voient bien que la position, en fin de compte, qu'on connaît dans nos cliniques ou dans nos hôpitaux publics de la femme allongée avec les jambes relevées dans les étriers, c'est un petit peu contre nature et ça complique les choses. En fait, comme l'explique Julie Bouaillet, la position verticale, la gravité, donc le corps qui bénéficie de la gravité quand la femme est accroupie ou debout, ça facilite le passage du bébé dans le canal pelvien. Ça paraît même une évidence, j'ai envie de dire.
C'est une évidence, pardon, vous n'êtes pas gynécologue moi non plus, mais alors si c'est une évidence et si c'est mieux, pourquoi on ne le fait pas maintenant ?
Parce que ça aide les médecins. La principale raison, c'est parce que la médecine, en fait, c'est accaparé. Alors je vais être un petit peu violent peut-être, hein, mais elle a voulu aider les femmes dans un premier temps pour les aider à accoucher, mais en les positionnant allongées, eh bien, elle ne leur a pas facilité le travail parce que ça bloque en fait les hanches dans les mouvements des hanches.
Incroyable.
Et c'est ça en fait qu'on retrouve dans les accouchements dits traditionnels. Ouais. Alors je ne veux pas dire que maintenant il ne faut plus aller accoucher dans les cliniques.
Hein, non, parce que je ne parle pas de ça, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que la position allongée pour l'accouchement n'avantage pas la maman, mais le personnel médical.
C'est plutôt comme ça, malheureusement, oui. Alors, attends, voilà. Je préfère laisser à Julie Bouaillet le soin d'expliquer tout ça, parce que c'est en effet assez anatomique et assez compliqué.
Vous parlez des relations humaines, vous parlez des relations sexuelles dans ce documentaire. Évidemment, les preuves sont ténues, mais ce ne sont pas des hypothèses. Quand ce n'est qu'une hypothèse, le doc dit « ce n'est qu'une hypothèse et on n'en sait rien noir sur blanc ». Le commentaire dit « rien n'empêche d'envisager que Lady Sapiens était une femme libre, libre de choisir son partenaire, rien n'empêche de l'envisager, rien ne le prouve non plus.
Non, mais parce qu'on est parti d'un mythe qui est celui du rapt de la femme qui avait cours au 19e, au début du 20e siècle. On a l'impression que la femme est toujours objectivée, ce sont les hommes qui décident de tout. Et en fin de compte, la génétique, avec par exemple Evelyne Heyer du Musée de l'Homme qui travaille sur les échanges d'individus intergroupes, et la génétique peut nous révéler des choses là-dessus, on s'aperçoit qu'au paléolithique, eh bien, il y avait sans doute autant d'échanges de femmes que d'hommes. Même si on sait qu'aujourd'hui, le modèle dominant chez les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, c'est plutôt souvent la femme qui bouge, mais au paléo, ça devait être les deux. Et pourquoi avoir en tête forcément ce modèle patriarcal de l'imposition d'un homme à une femme ? Non, à partir du moment où la femme amène sa culture en changeant de groupe, elle aussi amène ses traditions, amène ses croyances, elle est tout à fait à même aussi de pouvoir choisir un homme.
Alors, c'est pas seulement un documentaire, ce Lady Sapiens, c'est un livre que j'ai ici, que je monte à la caméra si vous voulez nous regarder sur europe1.fr. Lady Sapiens, enquête sur la femme au temps de la préhistoire. C'est Les Arènes, c'est signé par vous deux et Jennifer Kerner. Tiens, c'est une fille. Et puis, il y a des images de synthèse, évidemment, puisqu'on n'a pas de film qui date de la préhistoire. Et c'est un univers graphique issu du jeu vidéo. Quel jeu vidéo et pour quelle raison, Thomas Sirotto ?
Alors, le jeu vidéo s'appelle Far Cry Primal. Il a été produit par la société Ubisoft. Far Cry, c'est une grande licence. Hein, c'est ce qu'on appelle un FPS. Alors, je ne sais jamais comment ils dénominent ça.
Allons droit au but.
Bref, c'est un jeu qui se passe à la préhistoire. Nous, ce qui nous a plu, en fait, c'était que, en fait, il a été fabriqué, les concepteurs se sont aidés de spécialistes de la préhistoire pour construire les décors, construire toutes ces vallées, la géographie, les campements, les personnages, les costumes, tout un tas de même au niveau des comportements.
Et vous-même, vous avez fait des repérages dans le jeu vidéo sur une PS4, c'est
alors,
ça?
Alors oui, j'ai passé 150 heures, pas facile au moins, pour aller retrouver quels endroits je voulais aller filmer à l'intérieur du jeu. Et aussi, surtout, pour trouver les comportements. Parce que un film, c'est pas que des images, c'est pas des photos, hein, faut que ça bouge. Et donc, repérer qui fait quoi, à quel moment, et pourquoi et qu'est-ce qui le déclenche dans le jeu, parce qu'évidemment c'est un moteur de jeu qui réglemente tout ça, et on n'avait pas la main totalement sur tous ces éléments au moment du tournage à l'intérieur du jeu.
Alors, il y a une expérience interactive, France Télé et Storylab proposent une version disponible sur Lumni, cette fois 6 minutes. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Lumni?
Alors sur Lumni, en fait, on a voulu adapter le discours du 90 minutes pour des primaires et des collégiens qui voient la préhistoire en CM1, CM2 et puis en 6e, 5e. Donc on a un petit peu vulgarisé encore un peu plus le discours pour que eux, ce soit bien compréhensible et à leur niveau de connaissance.
Et puis il n'y a pas que des images de synthèse, il y a également des images faites avec une caméra, exemple en forêt de Fontainebleau, c'est absolument magistral. C'est trop difficile à décrire ici, allez voir, c'est l'origine du monde gravée dans la pierre avec 20 000 ans d'avance.
Oui, alors ça vous étonne, hein, Philippe, mais ce n'est que de la 3D en fait.
Non.
Si, je vous assure.
C'est tellement bien fait, je me suis laissé avoir.
C'est une société française, hein, qui s'appelle Summum 3D, qui a fabriqué cette photogrammétrie, c'est-à-dire en prenant des milliers de clichés, eh bien, elle peut reconstruire comme ça le volume de cette cavité. Et nous, après, avec une caméra virtuelle, on va à l'intérieur pour vous montrer ces images assez exceptionnelles.
Bon, mais n'a rien inventé, en fait.
Voilà. Merci beaucoup. Thomas Sirotto, Éric Pincas, vous signez Lady Sapiens, doc historique scientifique consacré à la femme au Paléolithique. C'est ce soir sur France 5 à 21h. Merci d'avoir été avec nous.